Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. ¡Gol! William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bola sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic que va a golpear.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour un nouveau podcast sur cette bouillante 34e journée. La course vraiment en Liga est sur le point de s'arrêter, mais on a de très 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 belles affiches. Et puis alors en plus du derby de Barcelone, on a aussi ce magnifique Villarreal contre l'Athletic Club. Ça nous donne l'occasion aussi de parler de deux clubs dont on n'a pas beaucoup parlé ces dernières semaines. Hein. Alors pour nous parler de Villarreal, un retour enfin, ça fait longtemps, mais pourtant c'est un fidèle du podcast, peut-être même le plus fidèle des fidèles. Cyril, comment ça va ?
Ça va, bah oui, mais vous m'avez manqué terriblement. Et je me suis dit, ça y est, Villarreal n'intéresse plus personne. J'ai perdu de mon aura, j'étais au bord de la dépression, mais rattrapé par le col, là, franchement, non, vous m'avez manqué, vraiment, ça fait plaisir.
Non, exactement. C'est sûr qu'on a eu un programme un peu chargé là ces dernières semaines, mais là maintenant, ça y est, on a trouvé un peu le rythme de croisière, on reprend vraiment la bonne routine et bien évidemment, Villarreal et toi avec ton compte d'actualité, non, vous n'avez perdu pas du tout de votre superbe, l'aura est toujours intacte et on vous suit pour cette fin de saison. Et puis pour nous parler de l'Athletic Club, bon, j'ai parlé du fidèle des fidèles, mais j'ai envie de parler du réfé des réfés. Ruben, comment ça va?
Bah écoute, ça va nickel. Très content effectivement de reparler de l'Athletic et puis de faire un nouveau podcast de manière générale. Et puis oui, effectivement, comme tu le disais, de parler à nouveau avec Cyril, parce que ça faisait un petit moment. Mais effectivement, je sais que ça va être encore un très bon moment à discuter de football avec lui, puis avec toi évidemment, qui va animer. Donc non, très content d'être ici.
C'est ça, voilà. J'ai parlé du Barça pour présenter ce derby. On salue encore une fois Eloy aussi d'être venu nous parler de l'Espagnol. Mais là, voilà, on va tranquillement rentrer dans le vif du sujet, présenter cette petite affiche sympathique même. Et première question pour toi, Cyril, justement. Alors, ça fait longtemps, et donc ça va être une question un peu récapitulative. À 5 journées de la fin, le sous-marin jaune rêve encore de Ligue des Champions. Voilà, ça va être compliqué, c'est vrai, mais mine de rien, la course est encore ouverte. Qu'est-ce que tu penses du travail de Setién, plus globalement, sur ces dernières semaines à Villarreal?
Ben, je dirais qu'il faut regarder ça sous deux angles, en fait. Il y a deux façons de voir les choses. C'est que la première, c'est sur par rapport à la situation qu'il a récupérée quand il arrive fin octobre après le départ d'Unai Emery, qui est vraiment très, très coton. Je pense que n'importe qui aurait eu beaucoup de mal. Il a eu la chance d'avoir la trêve de la Coupe du Monde qui lui a permis de refaire une préparation derrière. Ça s'est plutôt bien passé à la reprise. Et bon, après, ça a été un petit peu carré. Il y a eu la fameuse élimination en Conference League qui fait très tâche et qui pourrait peut-être lui coûter sa tête pour la saison prochaine. C'est encore à voir. Mais sinon, globalement, je veux dire, il est cinquième à 5 journées de la fin. Donc, il n'y a pas grand-chose à reprocher là-dessus. Après, je dirais, il y a une autre façon de voir les choses, c'est par rapport au jeu en lui-même, qui est, on va dire, plutôt plaisant, c'est-à-dire qu'on se régale plus, on prend plus de plaisir à regarder les matchs que sous Unai, en tout cas la plupart du temps sous Unai Emery. On va dire que c'est l'une des équipes, sûrement Villarreal, qui est l'une des plus agréables à suivre en Liga, parce que ça va, il y a des actions d'un côté, des actions de l'autre, on sait jamais comment ça va se terminer, mais c'est vrai que c'est assez stressant en tant que supporter, quoi, parce que il a réussi à parfaitement à agencer les choses devant pour que ça tourne et pour mettre certains gars en confiance comme Chukwueze, Yeremi, là Nico Jackson sur la fin de saison. Donc c'est franchement agréable à voir, mais par contre derrière c'est vrai que ce bloc très très haut, ces sorties de balles toujours très risquées. Ça fait vraiment à chaque fois une grosse grosse insécurité et on sait que ça peut toujours mal tourner. Il y a très peu de certitude en fait dans le jeu, même si globalement au niveau des résultats il y a pas grand chose à lui reprocher. Il a fait le taf avec, encore une fois, dans des conditions pas évidentes, avec le départ du gardien titulaire au mercato, Rulli, qui est parti à l'Ajax. Il a fait ce qu'il a pu et il a plutôt globalement bien fait, mais pour, voilà, pour la saison prochaine, c'est encore très très en très en c'est très douteux encore. Son avenir est encore vraiment loin d'être assuré à Villarreal, parce qu'il y a eu cette élimination européenne. Et puis voilà, ce côté un petit peu risque-tout qui est un petit peu compliqué pour un collectif qui sera renforcé, qui a déjà commencé à être renforcé pour la saison prochaine, mais qui sera peut-être un peu moins costaud que cette saison. Donc voilà. Mais globalement, on va dire qu'il a plutôt fait le boulot.
Bon, donc une bonne note. On sait que c'est vraiment les montagnes russes, comme on l'a évoqué aussi, depuis que Quique Setién est là. Voilà, mais en tout cas, les résultats sont là et je partage vraiment ton avis là-dessus, mine de rien. Je trouve que c'est assez satisfaisant et hâte de voir un peu ce que ça peut donner avec une pré-saison et un recrutement. On y viendra un peu plus tard dans le podcast, peut-être. Et toi, Ruben, justement, ma première question, alors là, c'est un peu plus le masque, parce que récemment, l'Athletic Club avait enchaîné de bons résultats. C'était vraiment mis tout proche du train européen de la Ligue Europa. Et patatras, tout s'effondre avec cette défaite dans les dernières secondes face au Séville. Ce match nul arraché dans les dernières secondes sur pénalty du côté de Majorque, et cette nouvelle défaite avec un but cette fois-ci encaissé dès l'entame de match face au Betis. Voilà. Ces trois matchs-là n'ont pas porté. Les Lions n'ont pas réussi à en sortir quelque chose et voient même maintenant la Ligue Europa s'échapper. On parle d'une septième place qui serait qualificative pour la Ligue Europa Conférence, que connaît bien d'ailleurs notre cher Cyril. Mais toi, est-ce que tu prendrais ça comme un lot de consolation ou il y a vraiment pas mal de désolation, justement?
Disons que il y a un peu des deux effectivement quand il y a eu 5 saisons sans Europe, je pense qu'on ne peut pas faire la fine bouche et refuser non plus une place en Conférence League. Effectivement, maintenant, l'objectif, c'était quand même l'Europa League. Enfin, c'est toujours l'Europa League d'ailleurs. C'est vrai que le match de samedi est aussi important dans ce sens-là, parce que là, on a un retard de 5 points sur le Betis qui est 6e. Mathématiquement, c'est encore loin d'être terminé pour la course à l'Europa League. Mathématiquement, je dis bien, parce qu'il reste encore des points à prendre et que le Betis va sûrement en perdre aussi. Ils ont un derby contre Séville très prochainement aussi qui va être compliqué. Donc non, je pense qu'on est encore en course pour l'Europa League. Maintenant, pour répondre à ta question, moi oui, je le vois comme un lot de consolation aussi, parce que c'est vrai que parce que voilà, enfin, on peut pas non plus tout rejeter. Je pense qu'une place en Conférence League, ça sera largement prenable. Maintenant, c'est vrai que oui, tu l'as dit, il y a eu effectivement du bon, voire même du très bon, et puis du beaucoup beaucoup moins bon ensuite. C'est vrai qu'il y avait eu cette élimination en Copa qui avait un peu déçu tout le monde, enfin qui avait déçu tout le monde même, parce que au vu du match retour qui est dominé de A à Z et avec toujours ce même problème, on va y revenir après, de marquer des buts, au final on se fait sortir. Et c'est vrai que la Copa était, comme sur les dernières saisons d'ailleurs, on va dire l'axe majeur pour viser une place en Europa League, parce qu'on sait que c'est pas forcément le plus abordable, mais qu'on sait qu'en tout cas cette équipe de l'Atlético qui n'a pas forcément toujours de la régularité, qui n'a pas toujours non plus de constance. On sait que sur des matchs comme ça, élimination directe, c'est là qu'elle a été peut-être la plus dangereuse ces dernières saisons. Et forcément, l'élimination était un peu dure, mais il restait 10 finales. Après ça, 10 finales pour accrocher l'Europe via le championnat, ça avait plutôt bien démarré, puisqu'il y avait eu des victoires certes pas faciles, mais qui étaient quand même plutôt intéressantes, que ce soit contre l'Espagnol, contre la Real Sociedad ensuite dans le derby, et puis contre Almeria ensuite, qui était une équipe très forte à domicile. Et puis oui, effectivement, tu disais, ça a commencé après avec cette défaite contre Séville, qui, pour le coup, voilà, pareil, et les résultats aussi d'un manque de réalisme et d'une punition qui est assez sévère à mon sens, mais c'est aussi le foot. Il y a ce match contre Majorque qui effectivement est un fiasco de A à Z, on s'en sort miraculeusement, et encore une fois, voilà, au vu du nombre de matchs qu'on a. Cette saison, on n'a pas été récompensé, je pense qu'on peut s'estimer heureux de ce point. Mais il y a surtout, voilà, ce dernier match face au Betis, qui était quand même, je pense, peut-être le plus décisif, en tout cas un des plus importants de cette fin de saison, parce qu'on parlait quand même d'une équipe qu'on aurait pu dépasser en cas de victoire, on parlait d'une équipe qui était une rivale, qui était un rival direct pour l'Europa League, et c'est un match qui a été un vrai fiasco. Il y a eu un but dès la 5e minute de Willian José, qu'on connaît bien aussi d'ailleurs, mais oui, le problème c'est qu'il y a peu de réaction après. La réaction, elle arrive à la 60-65e minute, autrement dit après 1 heure de jeu, et on sait que cette équipe a une fâcheuse tendance dans les matchs qui sont parfois importants à se saborder d'elle-même, et on l'a vu encore une fois sur ce match-là, et je pense que malheureusement c'est un peu ce qui nous a porté préjudice cette saison. Il y a eu effectivement le manque de réalisme sur lequel on va y revenir après, mais aussi toutes ces erreurs débiles qui nous ont fait perdre des points. Donc voilà, maintenant il y a une dynamique qui est négative, il y a un adversaire qu'on va jouer ce week-end avec Saint-Étienne que Cyril vient de présenter parfaitement, et c'est un nouveau match décisif maintenant, effectivement, la Conférence League. Voilà, pour répondre à ta question, quand même, ce serait quand même, moi je prends, on est en pleine lutte, effectivement, maintenant avec la victoire du Real Madrid, la 7e place sera qualificative. Le comble quand même, c'est qu'on a été 7e pendant des journées et que c'est au moment où la 7e place devient qualificative qu'on décide de passer à la 8e place. Donc non, non, c'est sûr que la lutte va être dure jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est mis, comme tu le disais, dans un pétrin un peu compliqué, parce qu'on avait la possibilité d'être 6e à cette journée. Au final, on se retrouve 8e. Et effectivement, Gérone est directement au coude à coude avec nous. Mais moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est, bon, évidemment, le Rayo dans un premier temps qui est juste derrière, mais surtout Séville, qui depuis l'arrêt de Mendy Libar est sur une dynamique assez exceptionnelle et qui n'a plus que 3 points de retard. Donc maintenant, voilà, le combat aussi qu'on voyait se dérouler devant nous va aussi se passer derrière. Donc voilà, ça ressemble un peu aux dernières fins de saison, malheureusement. Il y a encore des points à prendre et j'ai confiance en l'équipe. Mais oui, en tout cas, on fera tout pour l'Europa League, et puis même la Conférence League, qui, en tout cas, si elle est validée, sera pour moi un objectif parfaitement atteint, même si effectivement il y aura eu aussi des désolations sur cette saison.
C'est très rare d'avoir une saison pleinement réussie. On a parlé justement un peu du Barça de Xavi aussi. Donc, bon, voilà, c'est toujours une lecture du verre à moitié vide, verre à moitié plein. Mais je te rejoins là aussi, encore une fois. C'est vrai que si l'Atlético pouvait retrouver la Coupe d'Europe, ce serait bien quand même, parce que mine de rien, c'est un club qui est dimensionné pour ça. Et on sent bien sûr que les dirigeants en sont préoccupés. Petit lapsus avec la Ligue des Champions. Peut-être que
Un jour,
les
peut-être.
amis Gourvan, Lucas, nous ne manquerons pas de
Ah
te le
ben
faire
oui.
remarquer. Mais ils te diront peut-être que l'essentiel est de participer. Enfin,
Mais
bon,
ils le méritent, ils la méritent leur place. C'est vrai qu'ils ont perdu le derby, mais ils méritent cette place en Ligue des Champions. Voilà, si je peux le dire quelque part publiquement, c'est bien dans un podcast. Donc
ça permettra de vérifier qui écoute et qui n'écoute pas.
voilà.
On va reprendre le fil du numéro en parlant de la défense de Villarreal. Alors, cette saison, le sous-marin affiche une moyenne de un but pris par rencontre. Est-ce que justement le secteur défensif, c'est pas le point faible de cette équipe? Voilà, on voit un peu des buts gags à certains moments, ou même une certaine fébrilité dans quelques rencontres. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Cyril?
Je ne sais pas si c'est vraiment le secteur défensif en lui-même, ou enfin, en tout cas les défenseurs individuellement qui sont à blâmer, mis à part évidemment, y a eu la boulette de Pau Torres contre Espagnol qui amène l'égalisation. Il y a un Pepe Reina qui est devenu gardien titulaire, qui n'était pas arrivé pour ça, bon, qui a 40 balais, qui. C'est un petit peu compliqué, et on sent qu'il n'a plus ses réflexes de 20 ans, que c'est un petit peu limite, quoi. Après, pour le reste, je pense que c'est plus dû en fait à un schéma de jeu global. Comme je disais un peu dans le passage d'avant, plus à la philosophie de jeu qu'a voulu inculquer Setién, avec ce bloc très très haut, ce jeu très risqué, qui fait la place belle à la technique des gars, mais sauf que sur une période dans un match, ou même sur une période plus globalement dans la saison où la confiance n'est pas trop là, ça peut vite chiffrer. Et c'est vrai que autant devant ça marche très très bien, on est parmi les meilleures attaques de Liga, autant derrière C'est ouais, comme tu l'as dit, c'est très compliqué, quoi. Et c'est ouais, je pense que c'est plus globalement dû à une philosophie de jeu, surtout après un système, le système Emery, qui était vraiment très très sécurisé, où là on limitait au maximum les prises de risques et les erreurs. Ça ne nous empêchait pas de perdre des matchs aussi, mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce sentiment quand même que tout pouvait arriver à tout instant, pour le meilleur et pour le pire. Mais on a des gars, par exemple, je pense à Capoue, quoi, on marchait avec Emery dans un 4-4-2 avec deux milieux devant la défense, avec Capoue qui ratissait beaucoup. Il a été complètement repositionné. Ça a comme bon côté qu'il est beaucoup plus libre de monter, qu'il apporte beaucoup plus offensivement. Il a marqué d'ailleurs pas mal de buts cette saison. Mais là où il est précieux devant, il manque parfois cruellement, même souvent cruellement derrière, sur les phases de transition. On souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu un tout. Il faut voir ça comme un tout, pas uniquement au niveau défensif ou globalement. Je dirais que les mecs font plutôt bien leur boulot. On a même une satisfaction cette saison, qui est, en tout cas sur la fin de saison, qui est Issa Mandi. Lui était pour le coup impliqué régulièrement sur des buts gags la saison passée. C'est vraiment pas le cas cette saison. Il a été amené à remplacer Albiol très régulièrement depuis plus d'un mois. Et il l'a très bien fait. Et il le fera d'ailleurs, on y reviendra après, mais il le fera très probablement samedi soir contre l'Athletic Club. Donc voilà, donc c'est ouais, je dirais que c'est plus à prendre sous un aspect général que réellement le secteur défensif en lui-même, quoi.
D'accord. Donc c'est du pain sur la planche de Sétienne et pas seulement au niveau des recruteurs. Tu as bien fait de le souligner. Voilà, c'est plus une dynamique de l'équipe générale plutôt que des individualités, comme tu as très bien dit. Et alors on a parlé d'une supposée faiblesse défensive de Villarreal. On en a donné les raisons. Maintenant, on va parler du manque offensif des Lyon, hein, de l'Athletic Club. Les deux derniers matchs à domicile, pas un but. De nombreuses rencontres cette saison sans marquer. Et pourtant, quand même, des joueurs de qualité, hein, sur le papier, les frères Williams, Ollant Sunset, Gorozeta, tout ça, c'est quand même des joueurs de certains niveaux. Toi, comment tu expliques ça, et est-ce que c'est pas au final le principal point négatif de la saison?
Ben, si, assurément, et puis je dirais même dès dernière saison, parce que si on regarde de manière plus générale, c'est ce qui nous pose problème dans bon nombre de matchs, et surtout depuis le départ de Adouris, effectivement, qui n'a fait que mettre en évidence encore davantage ses lacunes. C'est vrai que, ben, au final, j'en parlais avant, mais quand on domine des matchs avec 15-20 tirs, quand l'adversaire n'en fait que 5 ou 6, et qu'au final le score se finit soit par un nul, soit par une défaite. Je pense que le match contre Séville le démontre parfaitement il y a 2 semaines. Je pense que voilà, le problème est assez clair. Maintenant, effectivement, il y a de la qualité, il y a de la qualité sur les ailes, il y a de la qualité technique, mais c'est vrai qu'en termes de buteurs, c'est quand même la grande pénurie, parce que il y avait eu espoir, effectivement, en un moment. Raúl García, qui avait été repositionné en tant qu'avant-centre par Garitano il y a quelques saisons, c'était un poste intéressant, mais on voyait bien qu'il manquait quelque chose non plus aussi, puis il avait l'âge qui venait, et depuis, bah, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu Via Libre pendant un temps, mais il a ensuite été beaucoup blessé, et puis il a perdu complètement le rythme, au point qu'il a fini par être prêté à l'Aves, et maintenant il y a, voilà, Gourcetta aussi qui essaye un peu de reprendre le flambeau. C'est compliqué parce que c'est un attaquant qui bon, était au club il y a déjà quelques saisons, qui était parti parce qu'effectivement il avait très peu de temps de jeu. Il est revenu après deux bonnes saisons, enfin surtout une bonne saison à Amorebieta, et honnêtement, non, sa saison est intéressante. C'est vrai qu'il a pas marqué tant de buts que ça, mais sa saison est intéressante parce que dans le jeu il apporte beaucoup, notamment c'est quelqu'un qui décroche énormément, et c'est en tout cas vital aussi pour le nombre de fois où, en tout cas, où Atlético arrive à se créer des situations. Mais voilà, le problème est là, c'est que souvent ça s'arrête aux situations, et que derrière il manque les buts. C'est vrai que le chiffre, je crois qu'on a 43 buts marqués, de ce que j'ai regardé tout à l'heure, 43 buts marqués en 33 journées, ce qui est relativement plutôt, ce qui est même très bien, on va dire. Je trouve que ce chiffre est quand même assez flatteur parce qu'en fait, voilà, on oublie avec ce chiffre qu'il y a eu beaucoup de matchs en fait qui se sont joués, qu'on a joué, qu'on a dominé en fait en marquant 3-4 buts, mais surtout contre des adversaires de bas de tableau. Enfin, je repense surtout au match du début de saison, notamment contre Cadiz, contre Elche, contre Almeria, où, qui se sont soldés par des 4-1, 4-0, 4-2 aussi. Voilà, il y a eu à côté de ça des matchs qui ont été, bah, les derniers qui ont été beaucoup moins réussis, et contre des adversaires directs, ouais, il y a un manque de buts assez criant. Donc effectivement, oui, c'est le grand mal de cette équipe, et je pense qu'encore une fois, si on manque l'Europe, bah, c'est la principale explication, en tout cas, parce que c'est le cas depuis plusieurs saisons, ça se répète encore en ce moment, et ce qui effectivement est préoccupant, et je terminerai sur ce point, qui en même temps permet, voilà, de parler rapidement d'un autre thème, c'est que il n'y a pas non plus de buteur vraiment très intéressant en équipe B. Alors on sait que le Bilbao Athletic fait une saison catastrophique en troisième division, et il y a une relégation qui va envoyer le club maintenant, du coup, enfin qui va envoyer le club en quatrième division, mais la saison est catastrophique, mais il n'y a pas non plus, voilà, de profil de buteur qui peut être intéressant. Il y a eu des espoirs qui ont été fondés sur certains joueurs qui maintenant, bah, voilà, n'y arrivent plus. Et effectivement, la qualité, encore une fois, technique est sur les ailes, mais ça, je pense qu'on n'en manque pas. Et effectivement, moi, ce qui me préoccupe, c'est le fait qu'au club, il n'y ait pas ce qu'il faut, et que on connaisse aussi, bah, la difficulté du club à recruter, que ce soit aussi bien en attaque que sur les autres postes. On voit bien que dans une région quand même, alors certes pas forcément très peuplée, mais qui est quand même, voilà, on va dire, très dynamique niveau football, qu'est le Pays Basque, c'est compliqué, parce que quand il y a la Real Sociedad qui est passée devant maintenant depuis plusieurs saisons, quand il y a un club comme Osasuna qui, ben, mine de rien, était pas le petit poussé non plus, mais était quand même, on va dire, derrière les deux gros, est en train de revenir petit à petit. Ils ont fait une finale de Copa il y a quelques jours, ils nous ont éliminés de Copa il y a quelques semaines. C'est compliqué, et c'est compliqué de convaincre des joueurs, effectivement, de venir, notamment quand je... Voilà, on parlait de la Real Sociedad avant qui va jouer la Ligue des Champions. Quand toi tu joues peut-être pas forcément l'Europe, c'est compliqué d'attirer des joueurs, donc le problème aussi est là. Et donc oui, ce problème se voit particulièrement en attaque, parce que c'est ce qui nous manque. Mais voilà, je pense que les problématiques vont vite venir aussi à d'autres postes. Il y a le départ d'Inigo Martinez qui, bon, vraisemblablement, même s'il y a certaines rumeurs qui parlent d'une prolongation, un départ vers le Barça qui se profile, et c'est pareil pour le remplacer, on cible des défenseurs qui sont en deuxième division, qui sont dans les réserves des autres équipes. Donc c'est un problème aussi, c'est qu'il n'y a plus cette capacité non plus à attirer des gros joueurs, comme c'était le cas notamment d'Inigo Martinez, qui était titulaire à la Real Sociedad et qui avait signé en 2018. Donc voilà, le problème, il est là aussi, et je pense qu'en tout cas, c'est tant qu'on n'aura pas solutionné ce problème en particulier de l'attaquant, on aura des saisons peut-être belle, mais des saisons difficiles aussi devant nous. Il faudra accepter qu'il y ait beaucoup de matchs, en tout cas, qui seront faibles en termes de buts. Et moi, en tout cas, ce qui me fait peur, pour terminer avec ça, c'est qu'effectivement, j'ai du mal à imaginer cette équipe jouer sur plusieurs tableaux sans avoir un attaquant fixe, parce que c'est quand même compliqué, aussi bien en Liga, aussi bien qu'en Europe, de faire des bons matchs sans vrai buteur. Et en tout cas, voilà, si on compare par rapport aux autres équipes qui sont devant nous, je pense qu'elles ont chacun leur, et chacun les leurs, même pour certains. En tout cas, voilà, c'est ce qui nous pose problème. Donc c'est une solution qu'on doit trouver assez rapidement, parce que tant qu'il n'y aura pas ce buteur, en tout cas, ou cet attaquant qui met les buts qu'il faut, on aura en tout cas ce problème aussi de finir les matchs, de conclure les occasions. Donc voilà, oui, un vaste, vaste problématique sur ce sujet. Oui.
Ouais, tout à fait. Ben, je pense que tu as très, très bien résumé. Et oui, tant qu'il n'y aura pas de neuf capable de tuer les matchs, ou du moins de percer ce plafond de verre, ben, l'Athletic aura du mal à être en phase avec ses objectifs initiaux de retrouver vraiment des compétitions européennes et pourquoi pas même un jour la plus grande. Je vais rester avec toi justement, Réfé. Là, tu as l'air d'avoir chauffé les cordes vocales un peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire des absents et des retours du côté de l'Athletic Club pour cette rencontre?
Bah du coup, oui, justement, il y a des trucs à dire aussi sur ce point. Infirmerie chargée, au pire moment de la saison peut-être, mais bon, c'est comme ça. On va commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le retour de Mounain, qui était absent depuis un long moment maintenant, et qui va revenir. Et Dieu sait qu'on en a besoin, vu parfois de de la faiblesse qu'on peut avoir devant. Donc voilà, un retour qui va être très important. Il y avait Nico Williams, DeMarcus et puis aussi Ander Herrera qui était incertain ces derniers temps, qui était absent de l'entraînement d'ailleurs en début de semaine, mais qui sont revenus, donc ils seront là pour le match. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis pour ce qui est des absents, là en revanche, c'est un peu plus compliqué et ils sont à peu près tous en plus dans la même zone. C'est Inigo Martinez donc, qui est blessé depuis un certain temps aussi. Yeray qui s'est blessé pareil après le match contre Majorque. Dani Vivian qui a pris donc un carton rouge en défense centrale aussi au dernier match contre le Betis en fin de match en plus. Et puis Morcillo qui est blessé à la clavicule depuis quelques semaines aussi maintenant. Donc voilà, la problématique est surtout en défense centrale où on a quand même nos trois cadres qui sont absents. Donc ça donnera probablement Heitor Paredes qui est le quatrième défenseur central qui sera titulaire et qui sera accompagné après, ça c'est la grande inconnue, possiblement de Dani Garcia, de Balenciaga, ça parlait, qui sont pas à leur poste, ou sinon il y a eu aussi Hugo Rincón qui est un latéral du Bilbao Athletic qui a fait l'entraînement avec l'équipe première ces derniers jours et qui pourrait être en tout cas dans le groupe, pas forcément titulaire, mais en tout cas dans le groupe et qui pourrait peut-être entrer en jeu. Donc voilà, des absents surtout en défense centrale.
Ok, donc un secteur vraiment difficile à imaginer, à dessiner pour Ernesto Valverde. Et toi, Cyril, du côté de Villarreal, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Alors, à l'inverse de l'Athletic Club, on a une infirmerie qui s'est quand même bien vidée, heureusement. On a toujours, évidemment, Francis Coquelin, le pauvre, qui s'est fait les croisés au mois de février, qui lui, on ne reverra plus avant, je sais pas, septembre, octobre, quoi. Et puis, malheureusement, El Comandante Morales, qui en plus qui était dans une bonne période, et lui aussi, malheureusement, sa saison est très probablement terminée. Au niveau des retours, on aura. Pardon, au niveau des absents, j'en ai oublié un. C'est Raoul Albiol qui souffre du genou depuis un petit moment. Il a rejoué récemment, mais le problème, c'est que c'était pas suffisamment. La blessure n'était pas résorbée, donc du coup, ça y a eu une rechute. Il s'est pas entraîné cette semaine, donc il sera très probablement pas là pour le match de samedi soir, mais pour le coup, Issa Mandy a bien fait office, a bien fait son boulot ces derniers temps, donc il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. Au niveau des retours, donc on a Lo Celso qui enchaîne un petit peu depuis son retour au mois de mars, qui enchaîne un petit peu les rechutes et qui là sera là a priori. En tout cas, il s'est entraîné cette semaine. Donc ça, ce serait quand même plutôt la bonne nouvelle. Et évidemment, Gérard Moreno. Lui, c'est pareil. Hein, depuis un an et demi, il a joué la moitié du temps. Il a encore été blessé plus de la moitié de la saison. Là, il est revenu pour la première fois depuis un mois et demi. Il est revenu. Il a rejoué à Mestalla contre Valence en deuxième mi-temps, très peu, une dizaine de minutes. Et là, bon, là, dire qu'il sera titulaire samedi soir, c'est pas certain, mais. Je pense qu'on devrait le récupérer a priori à un assez bon niveau, en tout cas on l'espère, à nouveau sans blessure jusqu'à la fin de saison. Donc Gerard Moreno, c'est le grand retour de cette fin de saison et notamment pour ce match contre l'Athletic.
Ok, ben là, je pense que vous nous avez vraiment présenté ce match, enfin, vous avez commencé à le faire de fort belle manière. Je reste avec toi, du coup, Cyril, ben, pour rentrer un peu plus dans cette rencontre, justement, ben, comment tu la vois, tout simplement, à quoi tu t'attends vraiment pour ce choc, et est-ce que tu aurais un facteur X qui pourrait la faire basculer d'un ou de l'autre côté?
Comme très souvent contre l'Athletic Club, ça risque d'être très compliqué et ça risque de ne pas se jouer à grand-chose. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné, j'ai pas la stat en tête malheureusement, mais qu'on n'a pas gagné à domicile.
J'avais une stat de ce matin, je crois que c'est dans l'édition Biscaya de Mundo Deportivo, qui dit qu'en fait le dernier entraîneur de l'Athletic Club à s'être incliné à la Ceramica, c'était Ernesto Valverde. Donc ça va, mon.
Ah, ouais, ça
Ouais,
commence à faire. Ouais.
c'était fin, je crois que c'est 2017 ou un truc comme ça, il me semble. J'avais
C'est
vu ça,
ça,
je crois.
ouais, j'avais ça en tête à peu près. Mais du coup, ça fait quand même un petit moment que c'est très compliqué. des matchs très très serrés qui se jouent à très peu de choses et il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas que ce soit pas à nouveau le cas pour ce match-là. Facteur X, je dirais que évidemment il y a Nico Jackson qui a eu une deuxième partie de saison compliquée parce qu'il a été blessé au retour du mondial et il y a eu ce fameux transfert avorté à Bournemouth le transfert était quasiment acté. Il partait pour 25 millions. Finalement, ça ne s'est pas fait avec la contre-visite médicale. Le secteur médical du club anglais a trouvé une blessure en fait, qui apparemment était peut-être un peu plus sérieuse que ce que Villarreal prétendait. Donc le transfert a été avorté. Ça a beaucoup pesé psychologiquement sur lui. Il a eu un retour un petit peu compliqué. On sentait que Setién ne lui accordait pas trop sa confiance, même pas du tout. Là, depuis un mois, il marche sur l'eau. C'est lui qui est vraiment, pour le coup, Ruben parlait de manque de neuf à l'Athletic Club. Là, on l'a trouvé, heureusement. Il a pris le relais un peu de Morales. Il a surtout pris le relais de Gerard Moreno, qui nous manquait cruellement. Et même un petit peu, il a pris le relais aussi un peu de Chukwueze, qui a eu un peu sa période de hype à un moment donné. Et donc. Ben, on peut espérer qu'il soit encore dans ce moment fort. Et puis évidemment, ben, je dirais l'autre facteur X, je l'ai dit avant, c'est dans les retours de blessures, c'est Gerard Moreno. C'est qu'un notre joueur, notre meilleur joueur, en théorie, sauf que le problème, c'est qu'on le voit très rarement, malheureusement, en tout cas de façon très, très épisodique. Et on peut espérer que sur cette fin de saison, ça va être l'une des clés de cette fin de saison, ça c'est certain. On peut espérer qu'il apporte son talent devant et que ce soit lui qui fasse la différence. Parce que c'est vrai que si, même si Villarreal marque beaucoup, il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. On l'a vu ce match contre l'Espagnol avec, je crois, un record de tirs pour Villarreal au 21e siècle dans un match. Bon, pour 4 buts au final, certes, mais pour une quantité d'occasions vendangées absolument phénoménale. Donc, compte tenu du fait qu'on va forcément en prendre, parce que même si l'Athletic Club est dans une période compliquée et a du mal à marquer, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va arriver à les mettre bien en confiance à ce niveau-là. Et je pense qu'ils en ont conscience. Donc, il faudra qu'on marque et qu'on marque le plus possible. Donc, je veux espérer que Gerard Moreno va apporter sa touche devant.
C'est sûr, c'est sûr. Il est toujours décisif et très important dans ce genre de match. Tu l'as très bien dit. Ruben, voilà, je te renvoie la question. Toi, comment est-ce que tu vois cette rencontre et est-ce que tu as un facteur X?
Non, mais effectivement, je pense que le constat que Cyril dressait auparavant sur le fait que les matchs, enfin, ce match-là allait probablement ressembler au dernier avec Ernest, je pense que oui, c'est bon, c'est aussi une éventualité à laquelle je m'attends parce que on a vu beaucoup de matchs plus ou moins fermés, en tout cas, voilà, relativement serrés avec peu de buts à la Ceramica dans les confrontations qui nous ont posés. Maintenant, oui, effectivement, je pense que bah, les deux équipes ont un enjeu propre, enfin qui leur est propre à chacune dans ce match-là. Effectivement, je pense que, en tout cas, pour ce qui est de Athletic Club, ce qui va changer pas mal de choses, en tout cas pour moi, ce sera Iker Muniain qui effectivement a été, qui sera d'ailleurs aussi mon facteur X, qui a été mis sur le banc beaucoup trop de fois cette saison pour moi. Ça effectivement, c'est un choix que j'ai pas forcément compris. Et je pense qu'en tout cas, sa présence qui est annoncée pour samedi va changer beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un qui, en plus d'être le capitaine emblématique et cette équipe tout simplement, c'est quelqu'un qui apporte une technique et qui arrive à poser le jeu de manière assez impressionnante parce que c'est vrai que Nico Williams a la technique, Sanchez a aussi cette technique, même voilà, parfois aussi cette vista que les autres joueurs n'ont pas, mais je trouve que Muniain arrive à combiner les deux très bien dans ses pieds. Donc voilà, moi je pense que ça va tourner principalement autour de lui. Effectivement, il y a une possibilité qu'il soit pas forcément titulaire d'entrée de jeu et parce qu'il était blessé. Et en tout cas, dans ce cas-là, je pense que ce sera Sanchez qui aura davantage ce rôle de 10 et qu'il a très bien réalisé. Mais dans l'opportunité, dans le dans, pardon, dans le cas où Muniain est titulaire, je pense que ce sera voilà, une belle opportunité pour tenter à nouveau de faire un match où on reprend le contrôle du jeu parce qu'effectivement sur les derniers matchs, contre Mallorca et contre le Bétis en particulier, comme je le disais avant, on a surtout subi et au final, on s'en sort alors en ne prenant qu'un point sur six, mais surtout en ne prenant que deux buts sur les deux matchs. Donc maintenant, je pense que voilà, l'objectif est quand même d'inverser la tendance. Villarreal en face, voilà, si elle a parfaitement présenté l'équipe, a du bon et du moins bon, mais c'est une équipe effectivement qu'on n'a pas forcément l'habitude non plus de vaincre à chaque fois avec des quand on gagne avec des scores fleuves, donc ça sera forcément un match difficile. Et je pense que oui, effectivement, nous en tout cas l'intérêt qu'on va avoir, ça va être en tout cas d'arriver à contrôler ce milieu de terrain et surtout de conserver cette vitesse qu'on sait avoir sur les contres et les occasions, en tout cas les attaques groupées, parce que c'est sur ça qu'on peut faire mal et c'est sur ça que cette équipe est la plus létale, je crois. Donc voilà, je pense que tout tournera, en tout cas une grande partie de notre dispositif tournera autour de Mounaïn et ça fera du bien parce qu'on a besoin d'un joueur comme lui. Maintenant voilà, j'ai aussi quelques craintes sur la défense, bon, qui a été quand même au rendez-vous jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'il y a eu des erreurs sur les derniers matchs, et puis surtout, c'est vrai qu'on est quand même amputé, voilà, de trois joueurs majeurs. Ça sera en tout cas une inconnue aussi à ce stade-là. Et c'est vrai que quand on voit les attaquants qui sont en face, la forme que certains ont, et effectivement, ce que nous, on aura en défense centrale en particulier, j'ai quelques doutes. Donc oui, forcément, c'est difficile de décrypter un peu, on va dire, avant que ce match commence, enfin, en tout cas d'en dresser déjà un pronostic assez général. Voilà, en tout cas, pour tourner autour de Mounaïn, je pense que ce sera le facteur principal, on va dire, qui pourrait faire basculer le match. Et oui, et le coaching de Valverde aussi, je l'ai dit plusieurs fois cette saison, qui, autant je trouve, fait vraiment un travail de manière générale assez intéressant dans le jeu, autant je trouve que ces changements cette saison ont été trop souvent plus pénalisant qu'avantageux pour l'équipe.
Ok, ben alors je vous remercie tous les deux pour cette présentation très complète de cette rencontre. Tu parlais tout petit mot d'un pod, d'un prono, pardon. Je vais d'abord commencer avec toi, Cyril, justement, pour clôturer ce podcast. Quel score vois-tu pour cette rencontre?
Alors, je suis très superstitieux. L'année dernière, j'étais très optimiste avant le match contre une autre équipe basque, contre la Real Sociedad à domicile. C'était au moment des fêtes de la Saint-Pasquale, qui sont les fêtes patronales de Villarreal, qui vont commencer là demain. Donc, je ne serais pas optimiste du tout. Et j'aurais tendance quand même à bien voir un bon petit match nul. Moi, pour le coup, là, je verrais quand même bien par rapport à ce que j'ai dit avant, je verrais bien. Débute quand même malgré tout. J'aimerais qu'on en mette un de plus, mais je vois bien un petit 2-2 quand même malgré tout. Je vois pas comment on pourrait déroger à la tradition des derniers matchs et des dernières semaines. Ouais, malheureusement pour nous, parce que c'est un match important qui peut nous permettre en cas de victoire d'assurer quasi définitivement notre place dans les six premiers, donc en Europa League, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir patienter encore un peu. Et donc un nul de deux. Allez.
Alors, un grand superstitieux te le dit, attention quand même, hein, à pas vouloir être le gaffé et à
Je
ne pas
sais.
s'avancer, ça peut aussi avoir un retour de
Je sais, il peut
boomerang.
y avoir un retour manivelle, je sais.
De toute façon, ce sport nous rend complètement fous, hein. On cherche toujours des explications partout. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, c'est noté, ok. Et toi, Ruben, justement, pour cette rencontre?
Effectivement, je vais être un peu dans le prolongement de Cyril, honnêtement, avec, allez, on va dire un petit peu moins de buts, un partout, parce que voilà, les deux équipes, comme il a rappelé très bien l'instant, enfin, Villarreal a un match important, on a un match très important aussi, mais voilà, j'ai du mal, honnêtement, à voir l'une des équipes prendre le meilleur sur l'autre. L'Atlético est une équipe qui voyage bien cette saison, Villarreal est une très bonne équipe à domicile aussi, je crois que c'est une des meilleures, enfin, une des équipes les mieux classées à domicile cette saison. Ouais, voilà, un partout qui, au fond, sur le papier, n'arrangera pas forcément une équipe plus que l'autre, mais voilà, un partout match nul avec du jeu, on espère, et avec peut-être plus de buts, mais en tout cas, moi, je partirais sur un partout qui confirmera aussi la dynamique des dernières rencontres qu'on a eues à la Ceramica.
Ok, bah écoute, moi pour ma part, alors désolé Cyril, mais je vois bien une victoire de Villarreal dans cette rencontre. Une victoire de
Ah.
but, hein. Et oui, là c'est les gars frais, les gatos negros, ils sont tous de ce côté.
Mais ouais, avec tous les bonheurs qu'on vous a apportés en moins de 4 mois là, Villarreal, franchement, on vous a fait plaisir, au Barça.
J'ai pas manqué de le souligner vraiment, les amis. Mais non, je vois Villarreal capable de s'imposer et pourquoi pas essayer de pousser un peu la Real Sociedad vraiment dans les dernières journées pour obtenir son billet en Ligue des Champions. Je pense que la bataille est pas morte, ce sera difficile, mais je vois quand même le sous-marin jaune capable de le faire. Et de son côté, l'Athletic Club, voilà, tu l'as très bien expliqué, Ruben, mais je pense que vous avez manqué un petit peu la marche, et malheureusement, dans ce genre de fin de saison, pour la C3, je pense que ce ne sera pas possible. Je vous vois aussi être capable de vous qualifier pour la C4, mais dans cette rencontre, je pense que Villarreal prendra les 3 points. En tout cas, merci, merci, merci à vous deux d'être venus dans ce podcast. Je commence par toi, Cyril. Encore un plaisir, hein.
Ben, plaisir partagé, merci beaucoup, on a hâte d'avoir les spaces de fin de saison et puis qui vont bien, et puis les podcasts bilan de fin de saison, tout ça, c'est super, merci beaucoup.
Non, pas de souci, pas de souci. Comme on l'a dit maintenant, ça y est, on a repris une nouvelle dynamique. On a eu pas mal de changements, mais ça arrive. Les space, les podcasts aussi, comme tu l'as très bien dit. Et je sais que c'est un vieux projet, mais Twitch, on y pense
Eh
toujours.
oui,
Voilà,
eh oui,
il faut
oui.
parfois laisser du temps. Et quand on se sera lancé, on se dira pourquoi on l'a pas fait 2 ans en avant. Mais
Ça.
voilà, on a quand même des emplois du temps assez chargés, donc c'est sur la table. Voilà, comme on dit, vu que le mercato approche, c'est sur la table. On va voir si on n'a pas une palanca sur le côté droit pour essayer d'activer tout ça. Mais bon, bref. Merci à toi aussi, Jefe, bien sûr, d'être venu nous parler de l'Athletic Club.
Bah écoute, non, avec grand plaisir. Non, c'était bon, c'est un beau match forcément. Et puis oui, tu l'as dit. Enfin voilà, c'est une des dernières opportunités pour nous de peut-être accrocher l'Europa League. Donc c'est le moment ou jamais. Mais voilà, en tout cas très content d'avoir fait ce podcast avec toi puis avec Cyril également. Et puis j'espère voilà qu'il aura plu à tout le monde, pardon. Et puis on vous souhaite un très bon match quoi, parce que c'est quand même une belle affiche de Liga.
Exactement, bon match à tous.